Rien à déclarer.
Le contrôle douanier de Nova.
Alors j'ai donc entre les mains, messieurs, vos passeports. Enfin Brian, on va le chercher ailleurs. Il est où votre passeport hein?
Bienvenue dans l'équipe Solidrim. Vous avez toujours quelqu'un qui est un petit peu étourdi, qui a l'esprit ailleurs. Voilà, je suis là.
Ça va, vous l'avez supporté pendant combien? Pendant 3 ans, du coup?
Oui, bah, disons que c'est ça la force d'une équipe. On a les points faibles de quelqu'un et les qualités des autres. Ça fait un bon équilibre.
Alors, donc, bah, Morgane, du coup, vous rattrapez Brian, puisque vous en avez deux, des passeports. Il y en a un avec des yeux éclatés et l'autre avec des yeux plutôt normaux.
Voilà, c'est la différence, en fait, entre une photo prise après des semaines de boulot pour ramasser de l'argent pour partir pour 3 ans et une photo prise après des semaines à faire du vélo en plein air avec une bonne mine.
Morgane Pierre-Philippe Monchot, 1m76, né à Montélimar. Et puis, j'ai aussi le passeport entre les mains de Sipai Kael Vera. Sipai, ça vient de?
C'est là aussi, ma mère est eurasienne.
1m75, né à Amiens. Alors, imaginez quand même, quand on fait un tour du monde comme ça de 3 ans, il y a des visas de toutes parts. Il y a même des trucs écrits à la main, manuscrits. Sipai.
On est resté bloqué 5 jours dans le No Man's Land entre le Maroc et la Mauritanie.
Pourquoi?
Problème avec les visas et les douaniers ne voulaient pas nous laisser passer, donc ils nous ont fait attendre au milieu du désert.
Oh la vache. Tout était plus ou moins chronométré ou pas à l'avance sur ces 3 ans?
En fait, l'itinéraire a été tracé globalement en fonction des saisons. Parce que par exemple, pour rejoindre l'Antarctique, la mer est glacée 8 mois de l'année. Donc il faut y aller pendant que la mer est navigable. Et c'est la même chose pour l'Amazonie. On a décidé de traverser l'Amazonie d'ouest en est. Et 8 mois de l'année environ, la jungle est inondée, donc il fallait y aller en période sèche, même s'il faut prendre ça très relativement, parce que là-bas, la période sèche, il pleut quand même tous les jours.
C'est fou, parce que du coup, vous avez fait du vélo quasiment tout le temps, même en Antarctique, même en Mauritanie justement, même dans les cordillères des Andes.
Ce qu'on aime bien dire, voilà, c'est que l'équipe, on n'est pas des cyclistes à la base, en Antarctique, on n'y est
ça
pas allé
dit,
à vélo.
Ouais.
Voilà, et donc c'était une expédition à la voile, par exemple, qu'on a descendu le Yukon en radeau, on a posé les vélos dessus, et à chaque fois, donc dans notre équipe, il y avait la volonté de trouver des petits défis un peu comme ça, insolites, qui s'écartaient du vélo, justement. En fait.
C'est incroyable, ça. Mais la souffrance physique, quelle est-elle? J'imagine que ça doit être horrible au bout d'un moment, non?
Le but, c'est pas de souffrir, c'est d'utiliser le vélo comme un moyen de locomotion, et aussi une maison, puisqu'on pouvait tout charger dessus. Il pesait en moyenne 60 kilos.
Ah ouais? Le vélo, pourquoi? C'est parce que c'est aussi économique?
En fait, au
parce
départ,
qu'il y avait un autre défi, c'était de ne pas dépenser plus de 8 euros par jour, c'est ça, dans votre tour
du
monde?
L'idée du voyage modeste, c'était pas vraiment une histoire financière en réalité, c'était plus une philosophie de voyage. On avait lu déjà dans les récits, on avait l'expérience de savoir qu'en voyageant avec un petit budget, on s'ouvrait beaucoup plus aux rencontres et au monde. C'est comme ça qu'on a choisi de voyager 3 ans sans payer d'hôtel ni d'auberge. Même quand ça coûtait 1 $ la nuit, on n'y allait pas, c'était par principe et par philosophie de voyage, plus que par économie en réalité.
Façon Antoine de Maximi, c'est ça, j'irai dormir chez vous un peu?
Alors la seule chose qui nous distingue de lui, de ce qu'on a un petit peu regardé sur Internet, à la télévision, c'est que nous on refusait l'idée de demander l'hospitalité. On aimait bien laisser les choses se faire naturellement. Donc vu qu'on était tout le temps dehors, on était forcément à un moment interpellé par les gens, et qui sont très curieux de nous voir arriver. Et puis au fur et à mesure des choses, quand la discussion se fait et que le feeling est bon, on se retrouve à dormir dans le jardin, puis finalement ils nous invitent dans le garage, puis après ils se disent venez dans le salon, et puis finalement dans la chambre d'amis.
Parce que je ne veux pas en savoir plus. Combien de temps vous restiez sur place en général?
On aimait beaucoup en fait dans l'équipe aller assez vite sur nos périodes de vélo pendant plusieurs jours, plusieurs semaines parfois, et puis ensuite choisir des villes dans lesquelles on savait qu'on pouvait éventuellement être hébergé ou voilà, choisir un endroit et rester, s'imprégner en fait. Parce que finalement le voyage il se fait pas que dans le déplacement, il se fait aussi beaucoup dans le voyage immobile. Et donc par exemple à La Paz en Bolivie, à Valparaíso, à San Francisco, à Sydney, voilà, plein d'endroits comme ça où on a voulu s'arrêter pour vraiment s'imprégner quoi.
C'est quoi le pays qui vous a le plus surpris en matière d'hospitalité?
Ça, c'est une question qu'on a souvent et on répond.
Et d'ailleurs, vous le dites
hein,
dans votre
aussi.
Bouquin. C'est quoi? C'est pas la Colombie, non?
On a beaucoup aimé la chaleur humaine d'Amérique du Sud et beaucoup aussi au Brésil. Le contact, les échanges sont très faciles. Il y a l'Asie centrale aussi où ils sont assez enrichis de la culture, culturellement, que le voyageur, l'étranger, est un enrichissement. Donc là-bas, ils se ruent sur nous pour nous inviter chez eux, et ça c'est extraordinaire, et on aime bien dire que c'est partout dans le monde quand même.
Du coup, vous avez balancé sur les idées reçues, j'entends par là, et je reviens à la Colombie, quand on parle de Colombie, on parle de narcotrafic, Il y a d'autres choses en Colombie, non? C'est ça qu'on découvre en étant à vélo avec pas moins de 8 euros par jour.
Alors pour la petite histoire, c'est marrant parce que quand on est arrivé du Venezuela, on était dans la région un petit peu en tension entre le Venezuela et la Colombie. Et de nuit, en fait, on a traversé la frontière pour des raisons qui nous dépassent. Et on s'est retrouvé en fait arrêté par la police qui nous a dit « Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous avez un kilomètre au sud de vous, vous avez les narcotrafiquants et un kilomètre au nord, vous avez les forces spéciales, vous êtes en plein milieu. » Et bon, nous, bien entendu, on est allé ensuite, on s'est fait héberger dans un collège, on a passé la nuit là-bas. Alors là, on a été quelque part dans une situation un peu tendue, mais nous, ce n'est pas du tout ce qu'on a expérimenté en fait en Colombie. On a rencontré des gens extrêmement accueillants, on n'a pas du tout senti la tension, à part juste à ce moment-là, parce qu'on était vraiment au mauvais endroit. Et les gens, justement, nous disaient, s'il vous plaît, dites à vos amis en France que la Colombie, ce n'est pas ce qu'on voit dans les journaux. Nous, on a envie de recevoir les touristes, on a envie de recevoir les étrangers. Donc, s'il vous plaît, faites passer le message. Donc, c'est avec plaisir qu'on le fait aujourd'hui encore.
C'est les trois explorateurs sportifs voyageurs de Solidream qu'on reçoit ce matin à la douane de Nova.
Rien à déclarer. Le contrôle douanier de Nova en podcast sur novaplanet.com.